Salut mes éternels super potes et bienvenue dans The Marvel Initiative, un podcast sur le MCU depuis 2017.
Je crois que
c'est ça. Ouais. Je suis Sofiane et avec moi Maxime.
Salut, salut.
Les frères Maxisoft sont dans la place. Pas de Zoltan cette semaine.
Et non, il charbonne.
Il évite les mauvais films.
C'est pas vrai ça.
Cette semaine, on va vous parler de Les Éternels de Chloé Zhao.
Zhao.
Est-ce que tu connais un peu les comics ?
Très peu. Je me suis renseigné en fait en apprenant que le film allait sortir. Donc petit à petit, j'ai lu 2-3 trucs. Mais sinon, moi, j'avais croisé 2-3 fois ces persos, surtout les Celestials dans les comics. Mais jamais, je m'étais jamais intéressé plus que ça, j'avoue.
Ah, moi, je connaissais pas du tout, quoi.
Ah, mais c'est pas. Y a pas énormément de volume en plus. Enfin, c'est pas un truc.
C'est un truc de Kirby, hein.
Ouais. C'est une pure création de Kirby. Ouais.
Ça se voit pas dans le film.
Ça se voit dans les thèmes, mais pas dans le visuel.
Ouais. Ça se voit pas trop au niveau visuel, justement. Non. Je me suis dit, comme c'est Kirby, peut-être.
Il y a quelques plans, il y a quelques idées, mais.
Ouais. Donc, pas du tout les comics. T'avais pas genre un perso préféré?
Non, pas du tout. Enfin, franchement, comme je t'ai dit, les Celestials.
Ils apparaissent jamais dans les Avengers, ils font jamais des.
Il y a certains crossovers, mais c'est surtout que. Comme je t'ai dit, il y a très peu de volume, donc en fait, les histoires sont très concises, et comme ça a été imaginé à la base pour être. Une histoire quasiment indépendante du MCU. Enfin, pas du MCU plutôt, mais de l'univers Marvel dans les comics, mais qui a été conçu comme une origin story, en fait, à l'univers Marvel.
Pour expliquer
c'est l'origin story de l'univers Marvel, en gros. Enfin, c'est vraiment pour ça qu'ils ont été créés, c'était l'envie de Kirby sur cette histoire.
Ah, vas-y, explique-moi l'univers, la création de l'univers Marvel.
Ah, du coup, il y avait les Celestials.
Ouais.
Ils ont mis une petite graine,
ouais.
Et puis ça a poussé, et puis après il y a eu plein de petites bêtes.
On a déjà vu des Celestials dans Guardians 1, où on les voit apparaître.
La planète Nowhere.
Et la planète aussi, où c'est la tête d'un Celestial.
Et est-ce que dans... Non, je crois pas. Dans Loki, il n'y avait pas une référence
dans
l'espèce de... Je sais même plus comment ça s'appelait.
Je crois que dans Loki, on en voit...
Dans l'épisode où ils sont dans l'espèce de terre désolée, là, je sais même plus comment ça s'appelle. L'espèce de cimetière, de déchetterie de l'humanité, de l'univers.
Je crois qu'il y a une référence à un Celestial.
Il me semble qu'il y a un truc comme ça.
Ça fait combien de temps, Loki? J'ai l'impression que ça fait genre un an déjà.
Loki, c'était.
C'est pas si longtemps que ça. Hein.
C'était septembre, non?
Ouais, c'est ça. Non, c'était pas septembre, Loki.
Pas septembre? Ah non, c'était. Attends, c'était quand, Loki?
Septembre.
Non, c'était avant.
Donc le but de Marvel, là, en gros, avec ce film, c'est de présenter de nouveaux personnages méconnus au grand public, tout en l'éloignant de la continuité principale. Donc, en gros, c'est Guardians.
Il y a un peu de ça dans le film, hein, même au niveau de l'humour. Par certains moments, tu retrouves un peu cette idée-là.
Ah, il y a de l'humour dans le film.
Il y a de l'humour pas drôle, ça je suis d'accord avec toi.
Il n'y en a pas beaucoup en tout cas, c'est pas comme un film Marvel, c'est pas non plus comme un film Marvel où ils en mettent à fond.
Il y a quand même un comic relief de comic relief dans le film, on est à ce point-là, mais ça on en parlera.
Mais en tout cas c'est un peu similaire à Guardians où on essaie de prendre un truc pas connu et d'en faire quelque chose.
Clairement.
Sauf que je trouve que dans les archétypes des personnages, c'est des personnages qu'on a un peu tous déjà vus. Il y a le Superman, il y a le Flash, tu regardes un petit peu les pouvoirs.
Non, mais c'est des personnages qui sont inspirés de divinité. Ouais. C'est en ça que ça se rapproche vachement de DC et de personnages qui sont très proches de divinité, comme on a beaucoup plus chez DC.
Et donc, c'est ça le petit problème, c'est que, avec ce film qui était un grand inconnu, on savait pas du tout où ça allait mener, quand ils l'ont annoncé, etc. Et je me suis dit, ah, c'est bien, on va peut-être voir des trucs qu'on n'a jamais vus avant. Et au final, on a le droit à la Justice League. Et donc
non,
je suis
t'es vraiment dur. Hein.
Je suis un petit peu déçu parce que non, mais c'est vrai, ça ressemble beaucoup à...
Mais moi, je trouve pas. Je trouve que c'est vachement plus introspectif qu'une
Justice
League.
Oui, mais je parle là au niveau des personnages et des pouvoirs.
Oui, à ce niveau-là, oui. Mais après, je trouve que quand même, les personnages ont... Même si tous les pouvoirs ne sont pas forcément égaux, chacun arrive, par sa personnalité, à faire qu'il y a un vrai groupe. Ce qu'il n'y a pas toujours, je trouve, dans la Justice League, où il y a quand même une trinité principale et puis derrière, il y a deux, trois gars qui se battent pour la quatrième place, quoi. Ou la cinquième.
Sauf que là, on a quoi? 10 personnages?
Ouais, il y en a 10 et il y en avait 12 de prévus à la base. Hein.
Voilà. En gros, tu vires la moitié, ça me dérange pas.
Bah, c'est ce qu'ils font dans le film, hein, au final.
Ouais, mais ils te font quand même des faux. On en parlera, mais il y a des faux rebondissements. Enfin, on te fait croire qu'un tel pourrait être le méchant ou qu'Angelina Jolie pourrait être la méchante.
Ouais.
Enfin,
tu vois. Mais ça, j'aime bien parce que ça te perd un petit peu.
Ouais, mais au final, ces personnages-là ne servent qu'à ça.
Oh, je suis pas d'accord non plus, parce que un personnage comme Druig, qui était vraiment présenté comme un, presque comme un antagoniste au sein des Eternals dans le film, au final, il l'est pas tant que ça. Il l'est pendant un tiers de l'histoire.
Moi, je sais pas, j'avais rien lu sur le film, donc. Mmh.
Il y avait c'était vraiment avec les bandes annonces, comment ouais. Il présentait ce personnage qui était vraiment là avec son.
Faut parler des noms des personnages. Aussi.
Déjà, faut les retenir.
Non mais. Non, c'est Kingo, quoi.
C'est bien Kingo.
Kingo. Le film coûte 200 millions, c'est-à-dire à peu près le même prix que Black Widow.
Ouais.
Là, pour le coup, on sent que ça a été filmé en extérieur, que c'est plus de lumière naturelle, que c'est plus un film qui se regarde.
Profondeur de champ aussi.
C'est plus un film qui se regarde, voilà.
Ah, un compliment, ça y est.
Voilà, c'est plus ça. Mais c'est aussi, ça se regarde dans le sens où, tu sais, quand tu laisses ta télé tourner et qu'elle passe des fonds d'écran.
Ça, c'est un peu le syndrome Chloé Zhao.
Ouais, j'ai pas vu ces films justement.
Bah, moi, j'ai vu The Rider, j'ai pas encore vu Nomadland.
Elle a eu l'Oscar, donc ouais. Meilleure réalisatrice et meilleur film aussi, je crois.
Meilleure réalisatrice, meilleur film, ouais, c'est ça.
Pas mal.
Et je crois même que. Meilleure actrice peut-être aussi, non?
Ah, je sais pas.
Il me semble.
Je suis plus trop les Oscars
ouais. C'est vrai que c'est un peu. Ouais. Et donc, je sais plus où j'en étais sur ce que je disais.
Tu disais que tu n'avais pas vu tous ces
films.
Oui,
j'ai vu The Rider, qui est un bon film. En fait, c'est un peu ce qui est intéressant avec Chloé Zhao, c'est qu'elle a un regard très social et documentaire sur l'Amérique. Et du coup, ça fait des films qui sont assez consensuels, mais qui sont quand même intéressants, parce que ça dénonce quand même des choses, au final, sur l'Amérique. Elle a vraiment un regard qui est intéressant. Mais après, c'est pas des films qui me transcendent, c'est des beaux films, mais c'est pas... moi, ça m'a pas marqué plus que ça. Mais j'étais curieux de l'avoir, justement, sur quelque chose de plus gros, quoi. Et surtout que son prochain film,
c'est un Star Wars.
Non, c'est un...
Ils ont annoncé qu'elle allait faire le Star Wars de Kevin Feige.
Ah, c'est elle qui va le faire. D'accord. Je savais même pas ça, tu vois.
Avec le scénariste de Doctor Strange 2.
D'accord.
Donc il a ramené toute son équipe.
Parce que un de ses projets de prochain film, c'est un western sur Dracula. Donc tu vois... Vu qu'elle a, c'est une grande passionnée de comics à la base.
Ce que j'ai lu, c'est elle qui a fait la pression à Marvel pour leur dire.
En fait, elle est arrivée dans les bureaux de Kevin avec déjà plein de travail préparé, parce qu'il y avait déjà un scénario décrit avant même qu'elle arrive sur le projet. Mais,
écrit par Kaz et Ryan Firpo, qui n'ont pas fait grand chose d'autre.
Ils n'ont
fait que ce film apparemment pour l'instant.
Voilà. J'ai pas trouvé trop d'infos sur eux. Je me suis un peu renseigné. Et du coup, elle est vraiment arrivée avec plein de trucs. Elle a prouvé que qu'elle avait envie de faire ce film et que c'était une vraie passionnée, surtout du travail de Kirby et plus largement des comics Marvel, parce que elle s'y connaît un petit peu, quoi.
Ouais. Et c'est le film le moins bien reçu des films du MCU depuis sa création.
Oui, après ça, c'est Rotten Tomatoes. Hein.
Ouais, mais
moi, je trouve pas que ça soit le film le moins bien reçu. C'est juste qu'il est plus clivant.
Par la critique, ça s'est quand même bien fait dégommer.
Mais oui, mais en même temps, il y a quand même plein de choses qui ressortent dans les critiques que tu peux lire dans la presse et les critiques institutionnelles, qui sont quand même assez nuancées sur le fait qu'il y a quand même des choses qui sont apportées, même si au final, globalement, c'est pas une révolution, c'est pas non plus un film extraordinaire, je te l'accorde. Mais il y a quand même des choses à en tirer de ce film, et c'est pour ça que moi je l'aime bien quand même.
Ouais. Moi, je suis d'accord avec. allez, on passe au film, non?
Si, de toute façon, il est assez long, on a du boulot.
En 5000 ans avant Céline, il y a 10 éternels avec des super pouvoirs qui sont envoyés sur Terre pour combattre les déviants. Bon, on va commencer par ça.
Mm-hmm.
Parlons des déviants, qui font partie des méchants les plus moches. Avec les hommes caviar de Suicide Squad, ça me vient à l'esprit. C'est-à-dire que c'est vraiment de la bouillie totale de numérique dégueulasse.
Ça va mal vieillir.
Des méchants très peu charismatiques en plus. Ils se mettent à parler qu'au bout de trois quarts de film.
Ouais.
Je trouve que déjà j'ai un problème si pendant tout le film on nous dit c'est ça la grande menace et en fait c'est des sortes de chiens Venom, quoi.
Mais au final c'est pas vraiment la vraie menace du film, c'est la menace
mais quand même, quoi.
Je suis d'accord, moi j'étais assez déçu de comment ils se sont servis des déviants.
C'est
parce
pas censé être des trucs beaucoup plus cool dans les comics, les déviants.
En fait, si, c'est même une vraie civilisation en tant que telle, mais là en fait ça a été abordé d'une autre manière qui est intéressante, je trouve, mais qui est pas très utile en fait à l'histoire du film. Elle est bien parce que ça amène toute une allégorie sur le monde du vivant et ça il y a des trucs intéressants je trouve sur l'évolution et compagnie. Mais après c'est vrai que bah déjà ils sont pas très beaux. Ouais. Après il y a deux trois idées des créatures qui font plus ou moins référence à des créatures mythologiques, donc ça j'ai trouvé qu'il y avait des idées un peu sympas. Mais après c'est vrai qu'ils servent pas à grand chose, ils sont pas très jolis et ils vont mal vieillir, ça j'en suis sûr et certain. Et oui, effectivement, on peut se passer d'eux dans le film, ça changerait pas grand chose à l'histoire et c'est pas les méchants qu'on attendait, surtout quand tu vois le personnage de Crow qui, comme dans quasiment tous les films Marvel, il meurt à la fin du film, quoi. Spoiler. Hein.
Et c'est fou, c'est que on a toute une scène au début où on nous montre tous les pouvoirs de chaque personnage. Ouais. Et ça, c'est plat, quoi. C'est vraiment pas joli. Enfin, c'est franchement nul. Je suis désolé, mais je trouve que tout au niveau de l'action, etc., il y a rien d'intéressant. J'ai l'impression d'avoir vu ça un milliard de fois. Et en plus, c'est des pouvoirs que j'ai vu un milliard de fois, et c'est des méchants qui sont pas du tout intéressants. Et dès le début du film, je me suis dit, ah ouais, non, ok.
C'est pas pour toi.
C'est pas pour moi. Quoi. Mmh. Ouais.
Moi, j'aime bien justement cette introduction de film parce que je trouve qu'elle, surtout avec tous les flashbacks qui sont intercalés pour.
Ouais, ça aussi, ça faut en parler. Quoi.
Moi, j'ai bien aimé. Enfin, j'ai trouvé que ça.
Je trouve que le film aurait été bien mieux s'il avait été linéaire.
Bah en fait, je trouve que c'est bien d'amener ce côté, de les ancrer en fait dans l'histoire de l'humanité pour montrer ce qu'ils ont apporté.
On le fait de manière linéaire. On commence par le début.
Oui, je vois ce que tu veux dire. Oui, que tu commences au début quand ils arrivent et petit à petit tu
comme
fais
ça,
évoluer.
Comme ça, quand l'autre Superman se barre,
et
etc.
Ça, c'est plus une question de montage en fait qu'une question.
Oui, voilà,
de,
c'est ça. Quand le Superman se barre, comme ça, on peut le ressentir. Ah, ça fait 5000 ans qu'ils sont ensemble, ils se barrent. Enfin, tu vois, il y a un truc vraiment. Alors que là, en fait, le problème, c'est qu'on a des flashbacks, et donc les moments où ils se retrouvent, il n'y a pas ce manque.
Dire,
tu vois, t'as pas l'impression qu'ils se sont pas vus depuis longtemps, parce que tu viens juste de les voir dans la scène d'avant, tous ensemble.
Moi, je peux pas te donner tort là-dessus, parce que c'est vrai que je l'ai pas ressenti comme ça, mais maintenant que tu le dis, c'est vrai que
c'est un des gros problèmes que j'ai eu avec le film, en fait. C'est que je me suis dit, et au final, c'est un peu mis par-ci, par-là. Par exemple, il y a la scène d'Hiroshima ou des trucs comme ça. Et il n'y a pas vraiment d'écho à cette scène plus tard, tu vois. En fait,
elle est en filigrane tout le film.
Voilà, il y a un vrai manque d'écho entre le passé et le présent, en fait. Si tu fais des flashbacks comme ça, à ce moment-là, il faut qu'il y ait des échos. Quoi.
Mmh. Mais moi, je trouve qu'ils y sont, les échos. Mais c'est vrai que maintenant que tu le dis, peut-être qu'un montage plus linéaire, aurait peut-être permis plus d'empathie envers justement leurs retrouvailles qui, c'est vrai, sont assez particulières. C'est assez fait bizarrement, genre il y a des personnages, ils en parlent même pas alors qu'on sait pas où ils sont, on sait pas s'ils sont vivants, s'ils sont morts.
Ouais.
Et là-dessus, c'est vrai que moi, il y a deux, trois petits trucs qui m'ont un peu fait tiquer.
Il y en a une,
ils savaient
pas trop quoi en faire, alors ils l'ont mis dans le vaisseau et puis voilà.
Ah, t'es dur, c'est un des meilleurs personnages du
film. Ouais, mais ils savaient pas quoi en faire. Elle apparaît comme ça, je suis dans le vaisseau, tu vois, on va la chercher.
Sa situation, c'est juste sa caractérisation de personnage qui est, elle accumule des trucs, du coup, elle préfère rester dans le vaisseau et oui.
Oui. Tu vois, tous, ils ont un moment où faut qu'on aille les chercher. Et elle, c'est juste, ah bah elle est dans le vaisseau, tu vois. Mais c'est vrai qu'il y a des personnages qui, bah, elle par exemple, alors on lui donne pas énormément à faire dans le film, quoi.
Bah moi je trouve que si, en fait, parce que chaque apparition qu'elle fait, elle est hyper rafraîchissante, je trouve, parce que elle amène quand même un truc différent. Déjà, t'as pas l'habitude dans un blockbuster de voir un personnage signé, et ça déjà, j'aime bien. C'est une actrice que je connais parce que je suis une des dernières personnes qui continue de regarder The Walking Dead.
Ah.
Continue de m'infliger ça, je sais pas pourquoi. Mais dedans, c'est un des seuls personnages qui a du fond et qui marche super bien, même si elle n'a pas toujours été bien utilisée. Et dans ce film, je trouve qu'elle a un peu ce même aspect où, bah, en fait, elle est vachement mise en avant par des petites choses qui font qu'elle est super attachante. Et je trouve que dans la scène de combat finale, c'est quand même celle qui a le meilleur combat en termes de pouvoir et de mise en scène.
Disons que c'est juste qu'ils ont tous plus ou moins une histoire, à part quelques-uns, on va dire. Il y a Gilgamesh qui n'est pas non plus développé énormément, il meurt dès qu'on le voit. On peut même dire que Salma Hayek n'est pas vraiment développée non plus, elle meurt assez rapidement.
Bah, elle a le rôle de la mère dans cette famille.
Mais c'est normal que quand tu as 10 personnages, c'est tout à fait normal que tu puisses pas te concentrer sur... Mais je trouve que moi, les personnages que j'ai préférés, c'est ceux qui étaient le plus déconnectés de l'histoire principale, en fait.
Donc,
les deux soi-disant méchants, quoi.
Ouais.
Donc, c'est Angelina Jolie, Tena et Druig.
Elle n'est pas méchante.
Non, mais tu vois, c'est ce que je veux dire, qui en gros, une vision différente des autres. Et même Druig, tu vois, c'est intéressant, le mec qui peut contrôler tout le monde, etc. Mais ils font pas grand chose avec non plus. Après, il y a le petit moment où ils te disent, ah, il est peut-être méchant. En fait, c'est pas lui le méchant. Et hop, il est de nouveau gentil et on passe à autre chose. Mmh. Il est copain avec la fille. Ont un petit moment où tu dis, il la dragouille.
Non, il la dragouille pas. Dès les scènes en Mésopotamie, tu sens qu'il y a un vrai lien entre les deux. Ouais. Et c'est un truc que j'ai bien aimé d'ailleurs, c'est toutes les relations entre les personnages dans l'histoire sont assez subtiles et assez bien amenées. Et je trouve que c'est fait avec, enfin, je dirais pas de la tendresse, mais avec beaucoup d'empathie. Et du coup, genre, ils sont très attachants, je trouve, dans leur relation, que ça soit Gilgamesh avec Téna, que ça soit
un autre problème que j'ai
Makari.
Vite fait, c'est on aurait pu dire Maxari, tu vois, au début de l'épisode. Un des problèmes que j'ai aussi, c'est que j'ai pas l'impression que ces personnages ont 5000 ans et qu'ils ont vu toute l'histoire de l'humanité depuis le début. Tu vois, moi, un personnage qui a 5000 ans...
Mais c'est parce que t'as pas ressenti d'empathie pour eux, ça, je pense.
Un personnage qui a 5000 ans, tu vois, je l'imagine plus comme Dr. Manhattan, tu vois, dans ma tête. Qui est plus complètement détaché de l'humanité. Après, c'est bien qu'il y ait des personnages qui soient plus humains,
etc. Mais c'est ce qui arrive à Angelina Jolie, c'est peut-être pour ça que tu l'as préférée.
Voilà,
parce que c'est exactement ce qui lui arrive.
Oui, elle, c'est plus qu'elle est devenue un peu fofolle parce qu'elle a trop de mémoire.
En fait, c'est la maladie, c'est qu'elle a tellement vécu que petit à petit, elle finit par oublier un peu qui elle est.
Au final, ça n'apporte rien. En fait, les deux personnages que je t'ai cités, tu peux les enlever du film, ça ne change rien.
Ah, je suis pas forcément d'accord, surtout pour Téna, mais parce que Druig, au final, il a un rôle, même s'il a eu la scène au Mexique avec les conquistadors, il a quand même un...
Ouais, mais réfléchis bien au plot juste de l'histoire.
Oui, non, mais je suis d'accord avec toi. Tu peux en enlever 7 quasiment dans les Eternals qui sont pas essentiels.
Ouais, mais au final, tout ce qui tourne autour de comment elle s'appelle, Cersei, et son mec.
Icaris.
Voilà, donc c'est normal qu'il y ait Sprite parce qu'elle est amoureuse du mec, donc il y a une relation. Là, tu peux encore tu peux la garder. Après,
Ajak, qui est quand même essentiel parce que c'est elle qui transmet ses pouvoirs.
Mais tu vois ce que je veux dire ? Par exemple, il y a quelques personnages où au final, tu peux te dire, est-ce qu'on a vraiment besoin d'avoir une team quoi au final ?
Bah en fait, c'est même pas la question se pose même pas parce que même eux se la sont pas posée, ils l'ont pas choisi en fait. Ils ont été prédestinés comme ça, donc et j'aime bien toute cette remise en question justement qu'ils ont et qui fait que ils sortent un petit peu de ce format d'équipe classique où au final c'est plus une famille encore une fois, un peu dysfonctionnelle comme les gardiens, c'est pour ça que ça s'en rapproche aussi un peu, et qui du coup apporte chacun son truc et il y a vraiment, moi je trouve qu'il y a une force d'équipe justement qu'on n'a pas l'habitude de voir. Parce qu'il y a vraiment des liens entre les persos. Le personnage de Gilgamesh avec Téna, leur relation, elle est aussi super intéressante.
Ils sont ensemble
Mais c'est très platonique, en fait.
Qui est fou amoureux d'elle.
On sait pas trop. Ils sont juste plus attachés, peut-être, parce qu'ils sont plus... Tu sais, ils ont tous les deux ce côté un peu combattant, un peu brut.
Alors, de nos jours, Cersei et Sprite vivent ensemble à Londres. Cersei, son pouvoir, c'est de pouvoir transformer les choses en...
Elle manipule la matière.
Et Sprite crée des illusions, c'est ça. Cersei sort avec Jon Snow. Parlons de Jon Snow, tiens.
Ouais.
Il y a les deux frères Stark dans le film.
Et très drôle la scène où ils se retrouvent quand même.
Ils se battent pour une fille qui s'appelle Cersei. Enfin voilà quoi. J'étais très étonné de me dire que, je préfère. Merde, comment il s'appelle ?
Kit Harington.
Je préfère Kit Harington à Richard Madden. Je préfère Kit Harington et Richard Madden. Richard Madden, je le trouve en bois dans ce film.
Il est un peu dans le surjeu, le garçon, par un moment.
Il est en bois, quoi. Il sert la mâchoire.
J'ai trouvé qu'il y avait des trucs sur son personnage qui étaient intéressants, mais son acting à lui, je suis d'accord avec toi, j'ai pas été très emballé. Alors que Kit Harington, qui est un acteur, c'est vrai que je suis pas non plus un grand fan, je l'ai bien aimé dans ce film, et puis en plus j'adore le perso qu'il est, donc moi je suis un petit fanzouz devant, quoi.
Donc c'est qui, lui ?
C'est le Chevalier Noir.
Le Chevalier Noir ?
Pas encore, mais...
C'est quoi son truc ?
Donc en fait, lui, il est plus ou moins descendant d'une famille qui est en rapport avec la légende d'Arthur et compagnie.
Ouais, c'est ce qu'il dit à la fin, j'ai une famille compliquée.
Et en fait, du coup, son oncle, dont il parle dans le film, tu sais, quand Cersei est en Amazonie, qu'elle l'a en FaceTime, et qu'elle lui dit, faut que tu te réconcilies avec ton oncle, son oncle, en fait, c'est le premier Chevalier Noir qui est un vilain dans l'univers Marvel. Et lui, en fait, devient, vu qu'il prend la relève de son oncle, il devient, lui, le nouveau Chevalier Noir, mais lui, il décide de faire le bien. Enfin, en tout cas, il maîtrise mieux les pouvoirs de la lame qu'il utilisera. Et du coup, ça devient le
c'est
Excalibur,
la lame.
C'est plus ou moins Excalibur. C'est la lame d'Eden ou d'Eben. Je crois que c'est la lame
qu'est-ce
d'Eben.
Qu'est-ce que tout ça vient foutre dans ce film?
Je pense que c'est pour l'introduire pour Blade, tout simplement.
Mais pourquoi ce film?
Pourquoi ce film? Parce que...
Pourquoi il faut que tous les gens avec qui les super-héros sortent soient eux aussi des super-héros? Je trouve que ça rapetisse l'univers, tu vois. C'est comme What If. Ça fait que l'univers est plus petit.
D'un côté, avec Eternals, c'est vrai qu'on ouvre de ouf l'univers, mais d'un autre côté, avec ce genre de truc à l'intérieur du film, c'est vrai que ça le rend vachement plus.
En plus, il s'était bien éloigné. Je trouve que toutes les références au MCU, il y en a pas beaucoup. Elles sont toutes plus ou moins nulles.
Moi, je les ai trouvées lourdingues pour le coup.
Toutes plus ou moins nulles. Ah, Thor, je le connaissais quand il était bébé.
Ça, elle passe un peu mieux que genre, qui c'est qui va devenir le nouveau chef des Avengers? Pourquoi pas moi? Ça, c'est vraiment lourdingue. Ou même Kit Harington qui fait t'es une magicienne comme Doctor Strange. Genre ça, c'est insupportable, je suis bien d'accord.
Beaucoup de références à Superman et Batman.
Ça, mais ça, pour moi, ça s'explique parce que ce que je te disais
ça
en
off. Ça existe
off,
dans le. Dans...
Non, c'est que c'est le film le plus DC des films Marvel.
Ouais, mais ça existe. Ce que ça veut dire, c'est que dans le MCU, il y a les comics DC.
Ouais, mais ça, c'est pour montrer aussi que qui c'est qui a la plus grosse quiquette, c'est Marvel parce que eux, dans leur univers, ils te mettent ça comme juste de la fiction, alors que eux, c'est la réalité, tu vois. D'une certaine manière, je l'ai ressenti un peu comme un truc
un peu.
Petit
hommage aussi. Hein.
Un petit hommage aussi, hein. Il y a un peu des deux, hein. C'est
il y a une
un
référence
à Batman. Alfred. Ouais, via Alfred. Et il y a deux références, voire même trois ou quatre à Superman.
Superman, il y en a pas mal.
Et puis, elles sont pas directes, mais le mélange du personnage de Cersei ou Athéna, il y a les deux côtés de Wonder Woman d'une certaine manière. Avec ce rapport très attaché à l'être humain sans en être un et à être. Mais presque amoureux de la terre et de ses habitants, et en même temps Athéna qui a plus le côté guerrière qui représente la puissance féminine et compagnie qu'elle est en étant Athéna dans la mythologie grecque, quoi.
Non, Athéna elle est cool, j'aurais préféré un film sur elle, à vrai dire. En plus c'est genre Angelina Jolie, donc c'est logique que ce soit sur elle le film, quoi, tu vois.
Et puis c'est sûrement
là,
le personnage qui parle moins,
là elle a vraiment un petit rôle alors que c'est quand même Angelina Jolie, quoi. Enfin, j'étais un peu étonné, tu vois, qu'elle soit autant en retrait.
Moi j'ai bien aimé ce côté un peu chaud froid où tu te dis
on sait pas ce qu'elle va faire, c'est la wild card, quoi.
Et ce qui est cool avec son perso, c'est que c'est sûrement le perso des Eternals qui a le moins de dialogue dans le film, ou quasiment, et au final tout son jeu il passe surtout par des regards, par des manières de jouer, et elle est super forte. C'est un vrai retour en force, j'ai trouvé, d'Angelina Jolie, parce que ça faisait un paquet de temps qu'on l'avait pas vue dans ce genre de film.
Je trouve que même dans les mauvais films elle se démerde souvent bien.
Elle a le charisme pour tenir un film sur ses épaules, ça c'est sûr.
Donc ils vont voir Salma Hayek qui vit dans un ranch et qui élève des poules
dans le Dakota du Sud,
voilà, sauf qu'elle est déjà morte. Premier rebondissement du film.
Voilà,
Cersei est donc choisie pour parler aux Celestials. Et donc là, ils décident de traverser le monde pour réunir l'équipe. Et une grosse partie du film, c'est ça, hein, traverser le monde pour réunir l'équipe. Ouais. Et c'est là que je me dis, ça aurait mieux marché peut-être en linéaire, tu vois ça.
Ouais, mais ça, c'est peut-être pas faux. Mais le problème, c'est qu'en fait, ça aurait été très vite en début de film avec les scènes où on a Mésopotamie avec Babylone, les scènes où on a le Mexique avec les conquistadors qui détruisent les civilisations Inca ou Maya. C'est Inca, hein.
Je sais plus.
Je sais plus non plus. Et au final, t'as juste les premières scènes avec les premiers hommes un peu civilisés à qui elle donne le couteau au début de film. Mais à part ça, au final, on les voit pas tant que ça dans le passé. Au final, on parle d'eux qui étaient dans le passé, mais on le voit pas tant que ça, en fait.
Ouais, c'est un peu confus, je trouve, au niveau de...
Le montage est assez étrange. Je trouve que sur la deuxième partie, qui est un peu moins bonne que la première, pour moi, c'est plus linéaire et justement peut-être plus clair. Mais après, il y a des rebondissements qui sont assez étranges. Mais avec encore des flashbacks d'ailleurs. Mais
des flashbacks dans les flashbacks.
Mais moi j'ai vraiment bien aimé quand même cette première partie de film où jusqu'en Australie où ils sont tous autour de la table et qu'ils sont plus ou moins tous réunis. Il en manque encore quelques-uns. Où il y a vraiment, je trouve, une vraie puissance dans la manière de ramener cette équipe et de te la créer, de te la montrer dans ces différentes époques et d'en faire des êtres supérieurs, quoi. J'ai bien aimé ce côté-là.
Mais en fait, le problème c'est cool de réunir une équipe, c'est cool de leur donner tous, chacun, des sentiments, des pensées, une façon de voir, une sorte de philosophie. Chacun représente une philosophie différente. Mais au final, on fait quoi avec ? Est-ce qu'il y a une scène, par exemple, toi, tu vas te dire, tu vas y repenser dans 5 ans, genre, à cette scène dans Eternals ?
Oui.
Il y a vraiment une scène
C'est pas des scènes, disons, c'est plutôt des plans qui pour moi sont des plans que j'avais envie de voir.
Je te dis par exemple dans à peu près tous les films Marvel, qui sont bons, hein, je veux dire, parce qu'il y en a quand même pas mal qui sont pas mauvais. Voilà, on va prendre le haut du panier. T'as quand même au moins une ou deux scènes par film.
Bien sûr.
Où tu y repenses comme ça et tu fais ah ouais, c'était cool quand même. Alors que là, dans ce film-là, j'ai pas eu un seul moment où.
Moi, j'ai bien aimé cette scène au Mexique, par exemple, où j'ai trouvé que, avec le discours du coup de Druig, j'ai trouvé super intéressant parce qu'en fait, je suis assez d'accord avec toi que les personnages en soi, ils servent pas tant que ça à grand chose dans l'univers Marvel. Mmh. Mais c'est plus pour ce qui ramène en tant qu'origine story de cet univers et sur l'être humain, toutes les métaphores et tous les messages qu'il y a derrière qui sont super intéressants sur l'homme, sur comment il est, comment il évolue et qui. La nature de l'être humain et comment eux, en fait, à leur manière, ont influencé et fait grandir l'être humain. Mais après, c'est vrai que il manque un petit truc pour en faire cette entité, ces entités vraiment surpuissantes et cosmiques dont on pourrait rêver, quoi.
Tu vois, quand tu te dis à la fin, ils vont se battre tous contre Superman, tu vois, tu t'attends à ce qui se passe. Mais au final, il n'y a pas grand chose, quoi. C'est un peu un pétard mouillé, quoi.
Oui, mais ça, c'est aussi, je pense, une envie de Chloé Zhao d'aller un petit peu vers un truc un peu plus à contre-temps de ce qu'on a l'habitude de le voir dans ce genre de film. Parce que.
Non, mais au final. Je veux pas qu'il y ait un troisième acte à la Marvel, hein, c'est pas ça que je demande.
Bah, il y est, mais je trouve qu'il est un peu. Il est quand même. Il a sa part d'originalité.
Voilà. Mais. Pas mémorable.
Le plan sur le Celestial qui a sa main qui sort de l'eau et tout à la fin, ça t'a pas mis des petits.
Non, je me suis dit putain, les nombres de tsunamis qui vont se payer les gens. C'est le premier truc auquel j'ai pensé. J'ai dit le nombre de franchement.
Entre le premier tremblement de terre.
Ah là, c'est un bordel que ça fait hein, de sortir un truc comme ça de l'eau.
Mais,
d'ailleurs, ça, on va y revenir, mais ça.
Bah, moi, j'ai trouvé ça génial et genre, que ça soit le plan dans l'épilogue du film où t'as Arishem qui arrive et qui dit bon bah maintenant je vais observer ce que vous avez vécu et puis je vais venir pour faire mon petit jugement, tu vois, genre je me suis dit bah maintenant il manque plus que Galactus quoi parce que ce plan où il arrive sur Terre à la fin, enfin genre moi j'ai trouvé ça hyper majestueux, hyper ça a de la gueule quand même, je trouve, j'avais envie de voir ça dans des films Marvel et là ça fait plaisir de l'avoir quoi, avec cette amplitude là.
J'ai déjà oublié.
Non mais tu dormais à ce moment là.
Je suis même pas resté pour les scènes post-crédit.
Oh, t'as pas fait ça.
Je suis resté pour la première. Je suis pas resté pour la deuxième.
Tu l'as maté après.
Ouais. Puis j'ai vu que j'avais pas raté grand-chose.
Bah moi, j'aurais été très triste de la rater quand même.
Ouais. J'aurais jamais su qui c'était de toute façon.
Mais bien sûr que si.
Bah non, je connais pas forcément le Chevalier Noir, donc je sais pas qui il est.
Oui, mais t'aurais reconnu la voix qu'on entend à la fin et t'aurais fait ah ça c'est sympa, tu vois. Ouais. Au moins ça. Surtout quand tu sais que c'est le personnage préféré de Chloé Zhao.
Là, ils t'ont fait. Ils te font franchement de.
Parce que la première scène post-générique, on se le dise, elle est nulle à chier.
C'est pas de la grande scène post-générique, les deux, hein, pour moi.
Non. Bah,
on va y revenir.
C'est des vraies nerderies.
On va retourner au film d'abord. Donc, Angelina Jolie et Gilgamesh vivent ensemble, mais je sais pas s'ils sont ensemble, comme je disais, on sait pas
ils
vraiment.
Ils ont une relation très, très fusionnelle, mais après, comme je te disais tout à l'heure, elle est un peu platonique, quoi. Elle est très. Très dans les gestes, mais pas dans les actes, quoi.
Donc elle souffre d'une maladie qui lui fait attaquer les autres au hasard, un peu comme ça de temps en temps. Fastos, lui, c'est l'ingénieur qui vit avec son mari et leur fils à Chicago, donc premier personnage gay de l'histoire de Marvel.
Il y avait eu le scandale dans Endgame au début du film, tu sais, avec quand t'as enfin le scandale, c'est pas un scandale, mais
dans Endgame.
Oui, la toute première scène, enfin une des premières scènes du film où t'as Captain America qui est dans cette
pièce des alcooliques anonymes. Ah oui, mais je te parle de personnage super héros. Voilà.
C'était la première fois qu'il y avait eu entre guillemets un personnage qui était présenté comme un personnage. Ouais. En tout cas, enfin c'était pas dit explicitement, mais c'était un personnage qu'on pouvait supposer.
Ouais, mais non, mais je te parle de.
Ah oui, non, là c'est clair, c'est net, enfin, c'est sans bavure et c'est fait avec juste beaucoup de normalité et ça fait du bien, je trouve.
Ouais, c'est. Voilà, c'est normal.
Oui, c'est juste normal que ça soit là et c'est fait avec la normalité que
ce film s'est quand même pris pas mal de haine.
C'est pour ça que j'ai envie de le défendre aussi un peu parce que quand tu sais pourquoi il s'est pris de la haine, ça fait un peu chier.
Donc lui, il a décidé d'arrêter d'aider les humains après Hiroshima. Évidemment, visiblement, il leur avait filé un coup de main pour construire la bombe, peut-être.
Non, pour moi, c'est pas comme ça.
Il les a aidés pas mal de fois et au
c'est
final,
ça
les a menés jusque ça.
C'est le fait de les avoir aidés dans le
mais faut pas oublier que le nucléaire, c'est aussi une source d'énergie, donc c'est pas c'est peut-être aussi pour ça qu'il les a aidés à l'origine. C'était
peut-être.
Pas une bombe, quoi.
C'est ça. C'est la manière dont ça a été utilisé, quoi.
Intéressant, mais ça m'a rappelé un film. X-Men Apocalypse. Et je me suis dit, il manquerait juste Olivia Munn en petite tenue dans un coin. Et t'aurais la même scène que dans...
Ouais, ouais.
Où t'as des super-héros dans un truc réel.
Très historique.
Imagine s'ils faisaient ça, par exemple, avec les ruines du 11 septembre ou un truc dans le genre. Je pense que ça
arrivera peut-être. Hein,
ça arrivera dans quelques temps. Il faut encore
un peu
temps,
de
mais,
temps pour les Américains.
Moi, mais... je trouve toujours ça un peu... Là, on parle d'un
La scène
monde...
est forte, je trouve. Mais après, c'est vrai qu'elle est quand même assez... Enfin, c'est pas très délicat.
Non, et puis le fait qu'elle soit balancée comme ça au milieu du film sans aucun...
Mais par contre... enfin. C'est vrai qu'elle est un peu balancée comme ça, mais sur le personnage de Fastos, je trouve que c'est une super suite logique tout au long du film, où tu le vois au début, il est avec sa machine à vapeur, au final il fait juste une faux, et tu sens qu'il a cette envie d'aider l'humain à progresser, à devenir, à être bien plus adapté à son environnement qu'il ne peut l'être, parce qu'il évolue bien plus lentement qu'il ne devrait, de son point de vue, et du coup
Il est incarné par le gars qui est dans Atlanta.
Ouais, Brian Tyler.
Qui est super dans Atlanta. Il joue Paperboy. Et il joue un rappeur. Je vous conseille fortement Atlanta. Avec Donald Glover. Donc, une très bonne série.
Et c'est sûrement un bon pote de Donald Glover. Parce qu'il double aussi le papa de Miles Morales dans Spider-Verse.
Ah ouais?
C'est lui qui double le papa.
Ouais. Ah ouais, ok. Lui, de toute façon, dans Atlanta, il y a la Kif, il y a que, enfin, tous les gars qui ont bossé dans Atlanta.
Oui, c'est...
Il y a Zoé Beats aussi, qui, hélas, a été dans la mauvaise saga.
Ouais.
Tiens, d'ailleurs, ils vont faire un Deadpool un jour ou...
Bah, il a été annoncé, ouais, ça va arriver, hein, de toute façon. Hein. Est-ce qu'ils nous introduiraient pas Deadpool avec un truc en mode Deadpool détruit l'univers Marvel?
Ouais, ça, Deadpool tue tout le monde.
Ouais, je vois bien un truc comme ça où il va vraiment être, tu sais, comme un espèce de petit esprit farceur qui vient foutre la merde dans les machins et puis il se barre.
Ouais. On verra.
Un Deadpool cosmique, quoi. Comme il peut y avoir le Daredevil cosmique dans certains comics.
Il y a un Daredevil cosmique.
Ah, il est incroyable.
Ah ouais.
Dans les Thor, enfin, dans les War of the Realm de Jason Aaron, il y a des vrais dingueries, ouais.
Donc, Kingo est un acteur de Bollywood qui se promène partout avec son valet. Et c'est là que tu disais que le sidekick avait
Le comic relief, un comic relief, quoi.
Ouais, c'est vrai, là. Le pauvre Kumail Nanjiani, qu'ils ont. De son propre choix, a fait énormément de muscu, et au final, on le voit pas vraiment dans le film, quoi. Et c'est drôle, ouais. Lui qui était dans Silicon Valley, pour les gens qui ne connaissent
pas. Et dans la série qu'il a fait sur sa propre vie, sur l'histoire par rapport à sa femme, où il.
Ça, c'est un film.
C'est un film ?
Ouais.
Ah, je croyais que c'était une série.
The Big Sick.
Ouais, The Big Sick, c'est ça.
C'est un film.
Qui fait partie de la liste de mes trucs à voir que j'ai toujours pas maté. Je croyais que c'était une
sympa,
série.
C'était sympa. Bah, Kingo, ouais, il m'a fait rire une fois. Il m'a fait rire quand il montre tous les portraits de ses arrière-grands-pères et tout, et qu'il dit ça, c'est mon arrière-grand-père. Enfin, c'est lui, quoi. Et ça m'a fait marrer. Sinon, je l'ai pas. Qu'est-ce qu'il fait, son pouvoir? C'est qu'il balance des lasers avec
les doigts.
En gros,
il peut manipuler l'énergie cosmique qu'ils utilisent, et du coup, bah, il l'adapte en fait à sa manière de faire.
Il fait des kamehameha, il fait
des... Oui, ou des piou-piou.
Voilà. Je ne l'ai pas trouvé... Là encore, un personnage où tu peux l'enlever du film, ça ne change pas grand-chose.
C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est à tel point que dans le dernier acte, il se barre lui-même du film tout seul pour revenir dans l'épilogue. Il y a vraiment ça.
Oui, il y a un moment où il se barre, c'est vrai.
En fait, quand Icaris révèle, entre guillemets, tout ce qu'il sait, et que il va pas les laisser faire,
je vais y aller, moi.
Il a une phrase qui est très intéressante, c'est « je me battrai pas avec vous pour ma foi, enfin pour mes convictions ». Mais du coup, il décide de partir, et Sprite se barre aussi à ce moment-là. Et il ne revient qu'à la toute fin du film, quand Sprite décide de devenir une humaine et que Cersei s'en va.
Ah, donc il n'est pas là pendant toute la bagarre.
Ah non, il n'est pas là du tout. Il ne revient pas du tout. Il est juste à distance et, tu sais, on le voit se soulever aussi. Mais
c'est pour ça, à un moment, je me suis demandé s'il n'était pas mort et que j'avais oublié. Ou
non, il disparaît du dernier acte pour revenir dans l'épilogue. C'est pour te montrer à quel point c'est vrai que l'utilisation des personnages, c'est pas toujours exceptionnellement fait, mais je pense qu'il... Il savait pas trop quoi faire avec ce personnage, hein, parce que, à part en faire un comic relief, et c'est un peu désolant, parce que faire ça à cet acteur qui est très très drôle, mais lui faire que ça.
Bah, c'est un peu ce qu'il fait, hein, avec son valet et tout.
Ouais, les scènes où il fait son faux documentaire sur les Eternals, avec 15 vannes sur eux, mais t'as toujours une caméra, enfin c'est.
Ouais.
J'avoue, j'ai trouvé ça lourdingue. J'ai vu que ça réagissait pas mal dans la salle. Je suis allé le voir en soirée, il y avait quand même du monde, mais.
Moi, il y avait personne. Il y avait un couple de vieux. Je sais pas ce qu'ils vous foutaient là.
Ouais, il y a des gens qui vont voir tous les films qui sortent. Hein,
ouais, ça doit être ça. Ouais.
Des passionnés de cinéma qui passent leur temps au cinéma.
Donc Makari, elle court très vite et elle est donc sourde. Mmh. Je crois que c'est pas expliqué dans le film, mais en gros c'est parce que quand elle passe la barrière du son, ça a explosé ses tympans en gros quoi.
C'est ça. Moi je l'ai compris comme ça, c'est pas vraiment explicité, mais c'est vrai que, et puis en plus je pense que c'est aussi une volonté de Harry Shem de créer des êtres qui représentent un petit peu tout ce qu'il il imagine de la vie qu'il veut donner, et du coup bah il y a aussi des handicaps, des...
C'est pour ça qu'il y a un enfant.
C'est ça. Ouais.
C'est vrai que la pauvre...
Et je pense que ses pouvoirs aussi ont affecté ses...
C'est vrai que Sprite, on n'en a pas trop parlé.
Très jolie allégorie sur Peter Pan avec ce personnage, j'ai trouvé.
Ouais, justement, on n'est pas obligé de nous... Il n'est pas obligé de nous le dire, quoi.
Moi, je ne l'avais pas vu, je t'avoue, j'ai pas pensé.
Bah, elle ressemble à la
fin.
Oui,
ressemble oui, à la mais petite... moi, en fait, j'étais tellement dans le film, mais j'ai pas du tout capté. Genre...
Bah, déjà, c'est obligé quand il y a un personnage comme ça, enfant pour toujours, t'es obligé de penser à Peter Pan parce qu'il est voilà.
Oui, c'est clair. Ça, quand tu y penses, c'est vraiment évident. Mais...
Et c'est vrai qu'il y a encore plus le côté, la petite, comment on appelle, clochette qui est amoureuse de Peter Pan.
Avec les enfants. C'est quoi les enfants perdus ?
Il n'y a pas vraiment une scène où, alors j'oublie, hein, mais il n'y a pas une scène où on montre à quel point, si à un moment elle se fait passer pour quelqu'un, pour une adulte, mm-hmm. pour draguer, c'est ça ? Ouais. Pour avoir un peu de.
Oui, au tout début du film, quand ils sont dans le bar. Pour
ça manque un petit peu de scène dans ce genre, tu vois ?
Un petit peu.
De scène pour montrer qu'avec les enfants, elle n'est pas à sa place, qu'elle avec les adultes, elle n'est pas à sa place. Enfin, tu vois qu'il y a un petit truc comme ça. Et à la fin, en plus, c'est un peu bizarre, c'est genre. Ah tiens, maintenant t'es humaine, et ça sort un peu, c'est un pouvoir que, ça c'est quoi comme pouvoir ? C'est un peu bizarre comme pouvoir.
Non, c'est juste qu'elle veut en fait se débarrasser de ses pouvoirs, et de devenir juste un être humain, et qui va vivre sa vie et mourir, parce que c'est tout ce dont elle a rêvé dans...
Ouais, mais ça j'ai compris. Mais je veux dire, c'est quoi elle dit, il me reste encore un petit peu du pouvoir des Celestials,
bah,
alors je vais pouvoir t'enlever tes pouvoirs, c'est ça ?
Bah vu qu'elle contrôle la matière... Tu peux te douter qu'en fait, avec le pouvoir qu'elle a des Celestials, elle est capable, en tout cas, vu qu'elle commence un peu à maîtriser mieux ses pouvoirs, de manipuler la matière et même le vivant pour lui extraire les pouvoirs qu'elle a, en fait, vu que c'est des pouvoirs qui viennent directement des Celestials. Moi, c'est comme ça que je l'ai compris, et c'est vrai que bah, ça s'est fait très vite, et ça manque un petit peu, comme tu dis, de développement, parce que... Bah, en fait, la seule personne qui te fait comprendre déjà qu'elle est amoureuse de Ikari, c'est Kumail Nanjiani qui le dit dans le film à un moment, en mode vous aviez pas remarqué. Parce que sinon, bah, c'est pas forcément évident, quoi. Qu'elle soit jalouse à la limite de lui, ça peut se comprendre, mais amoureuse, je sais pas.
Bah, c'est un peu un non-personnage pendant une bonne partie du film.
Ouais, ouais, c'est vrai. Qui sert pas à grand chose si ce n'est balancer 2-3 punchlines en mode je suis un enfant, mais j'ai quand même une maturité d'adulte, quoi.
Et enfin, on a Druig, qui vit dans la forêt amazonienne. Et c'est lui, on nous fait croire que ça va être lui le grand méchant du film.
Grand sardoche.
Voilà, que ça va être le méchant. Lui, c'est qui cet acteur ? Je l'ai déjà vu dans un truc, j'ai l'impression.
Tu l'as vu dans Dunkerque. Il jouait dans Dunkerque. Il jouait aussi dans... Enfin, il va jouer dans The Batman, je sais.
Ah, ok.
Il joue un flic dans The Batman.
Il a un sacré accent, lui.
Ouais, bah il est irlandais.
C'est vrai que c'est... Parce que aussi, Richard Madden a un sacré accent pendant le film. Je me suis dit, pourquoi est-ce que les... Pourquoi les Celestials leur ont filé des accents différents, quoi. Ils auraient, pour pas qu'ils s'entendent, qu'ils se comprennent tous, quoi. C'est quand même bizarre. Pourquoi Salma elle a un accent mexicain, enfin.
Ouais. Bah après c'est aussi pour vraiment montrer cette diversité. De...
Ouais, mais les accents c'est marrant, quoi.
Oui, surtout quand ils arrivent au tout début du film avec les premiers humains, il n'y a pas encore tout ça, donc c'est vrai que c'est un peu bizarre. Mais c'est un peu l'idéalisme peut-être des Celestials, de ce qu'ils veulent créer, en fait. C'est comme ça que. Qu'il faut le voir, je pense.
Et donc, lui, il peut contrôler les gens.
Il joue dans The Green Knight aussi.
Ah, ok. Mm. Il peut contrôler les gens. Et bah, pareil, c'est ça le problème que j'ai. C'est que le peu de fois où on le voit, c'est intéressant. Mais au final, il n'y a pas de payoff, quoi. Il n'y a pas. On nous dit que c'est un moment, c'est peut-être lui qui va endormir le Celestial, le contrôler. Mais au final, c'est pas comme ça qu'il s'y prenne.
Il se rend compte qu'il n'a pas la capacité de le faire. En fait, il a pas assez de pouvoir.
Dommage. Limite, j'aurais préféré que ce soit un des méchants pendant le film et qu'on s'en débarrasse au bout d'un moment. Parce qu'au final, je sais pas. C'est quoi son arc, en fait ?
Bah, il a toute cette relation avec Makari.
Ouais.
Après, il a quand même...
Mais ça, c'est deux phrases dans le film.
Ouais, mais il a aussi tout ce discours qu'il fait au Mexique, justement, en mode, bah moi, en fait, je suis capable de maîtriser les hommes et de faire en sorte qu'ils ne soient pas aussi horribles qu'ils sont, quoi.
Mais il devrait y avoir un moment où il contrôle les humains et on lui dit de pas le faire et il le fait pas, tu vois.
Bah il le fait, enfin il le fait, c'est dans cette scène au Mexique où justement il décide quand même de se barrer et tu les vois, il part avec tous les conquistadors.
Oui, oui, mais je veux dire après, parce que dans sa forêt, il continue encore à contrôler les humains.
Oui, mais là c'est plus, il protège une civilisation en autarcie, quoi, ça va pas plus loin.
Ouais.
Il s'est un peu justement reclus de l'humanité parce que bah un petit peu dégoûté de ce qu'il a pu voir à travers les âges, quoi. Moi c'est comme ça, j'aime bien ce côté justement, il préfère c'est comme un peu Icaris, hein, qui en fait on
Icaris il est tellement pas intéressant comme personne.
Bah il est intéressant dans le sens où justement il a un peu ce côté Superman mais qui est complètement détaché de l'être humain, enfin de l'espèce humaine, alors que Superman l'est, et justement il y a un peu cet antagonisme entre les deux qui est intéressant, de faire autre chose avec cette espèce de symbole qu'on a souvent de
il est trop du surhomme, quoi.
Ça je suis bien d'accord avec toi, je préfère sans fois Henry Cavill.
Ouais voilà, je préfère Henry Cavill. Oui, aussi, oui. Gilgamesh meurt et le Deviant lui pique ses pouvoirs parce que c'est ça que les Deviants font, et c'est là qu'il commence à parler un petit peu, et en fait on apprend que les Celestials ont donc créé les Deviants et les Eternals pour que la planète puisse couver un être céleste comme un œuf. Et c'est là que j'ai...
T'as perdu le fil.
Bah, en fait, je me dis, tout ça, ça a commencé avec Iron Man. Un billionnaire qui se fait, qui se fait une armure. Ça reste terre-à-terre.
Terre-à-terre, ouais.
Et maintenant, on en est à... La Terre, en fait, c'est un œuf avec la... Il y a une bestiole à l'intérieur. Non, mais si au moins c'était fait de manière psychédélique ou un délire, tu vois, que ce soit vraiment... Là, je trouve que c'est un peu...
Bah là, c'est le côté...
Là, pour le coup, c'est trop gros. Quoi,
bah, pour moi, c'est vraiment... Là, c'est le côté, justement, de Chloé Zhao qui fait sa métaphore de l'être humain qui s'autodétruit. Avec... t'as plusieurs phrases là-dessus sur... comment on dit... Enfin, le réchauffement climatique et t'as même... la scène où les déviants justement sortent de la glace parce que la Terre se réchauffe, donc il y a vraiment toutes ces métaphores avec au final la Terre qui va exploser parce que justement il faut recréer la vie pour, enfin détruire la vie comme elle est pour la recréer mieux, entre guillemets, enfin différemment.
Ouais, mais on
a j'ai bien aimé ces métaphores là, enfin c'est vraiment très très éternel dans le texte, quoi.
Ouais, non mais ça j'avais bien compris, mais
moi je me doute que t'avais compris ça. Oui.
C'est juste
oui, si t'as pas parlé dans la manière dont c'est présenté, quoi.
Non, j'ai même trouvé ça un peu con, en fait. Pourquoi est-ce qu'il y a des... Enfin, pourquoi est-ce que Dieu, il va créer des autres... Enfin, je sais pas. J'ai du mal avec les Celestials, le délire comme quoi il faut qu'ils naissent dans une planète.
C'est un délire très cosmique. C'est un délire très cosmique qui vient
des comics. Et donc, ils ont créé les Deviants pour devenir des prédateurs, pour pouvoir assurer qu'il n'y ait pas trop d'humains. Mais en même temps, ils ont besoin de créer des sociétés.
Non, c'est pas ça. Les Deviants ont été créés, mais ont mal évolué... Enfin, sont développés différemment de ce qu'avaient prévu les Celestials. Et du coup, c'est pour ça qu'ils ont créé les Eternals en faisant
des êtres...
Qui sont
des sortes de robots, en fait.
Qui sont comme un Vision, c'est des synthézoïdes, enfin des humanoïdes robotiques, enfin en tout cas artificiels, qui sont pas
donc
sont pas
c'est pour ça qu'ils ont tous aucune expression pendant tout le film, c'est ça?
Oh, t'es dur.
Ou alors c'est parce qu'ils sont dans Matrix Reloaded.
J'ai Neo juste en face de moi qui me regarde en plus, là.
Non, bah... Ouais, ok. C'est des robots et... Il y a un géant dans le monde.
Ce qui est intéressant, c'est que c'est des robots, mais qui s'humanisent au contact des humains et qui, en plus, les influencent et influencent l'humanité, du coup, dans sa manière d'être. Et c'est, là, je trouve, eux, ils s'identifient à ce qu'ils sont censés contrôler et surveiller. Et c'est assez puissant. Genre, c'est les dieux qui ont envie de devenir des humains, quoi. C'est assez beau. Et surtout dans l'univers Marvel, quoi.
Tiens, je me demandais un truc. Quand Thanos a claqué des doigts.
Mm-hmm.
Sur les 10, il y en a combien qui ont disparu?
Bah, vu que c'est pas des êtres vivants, je pense pas qu'ils en ont fait partie, en fait.
Ok.
Moi, c'est comme ça que je me suis posé la question, hein, mais je me suis dit, c'est soit on en a pas parlé du tout, et là, pour le coup, c'est une erreur, soit ils sont pas considérés comme des êtres vivants, parce que sinon, ça veut dire qu'il y a un Celestial sur deux qui claque aussi, quoi. Donc, c'est un peu. Je pense que c'est pas à cette échelle-là, quand même, c'est vraiment le vivant tel que le concevait Thanos quand il a claqué des doigts.
Je sais pas si ça compte. Ça voudrait dire que Vision aurait survécu, par exemple?
Bah oui. Peut-être.
Mais Vision, l'intelligence artificielle, au bout d'un moment, c'est pas un peu comme être humain? Sa relation avec sa femme et tout le tralala.
C'est les petites, les subtilités du claquement de doigts de Thanos, quoi.
Est-ce que les androïdes rêvent de boutons?
Exactement.
Électriques.
C'est sûrement la meilleure référence de ce podcast.
Plot twist, c'est Icaris le méchant et je l'avais vu venir dès les 10 premières minutes du film.
Bah moi pas, tu vois, ma copine oui, mais moi pas.
Bah genre, écoute, le personnage qui n'a...
Je sentais qu'il était bizarre.
Il n'apporte rien dans le film, en fait. À partir du moment où t'as un personnage qui ne sert à rien pendant les trois quarts du film. Mmh. Tiens, bah j'en parlais quand on avait fait What If. Il y a un épisode où il y a Killmonger dans la team. Mmh. Et pendant tout le film, on voit pas trop pendant tout l'épisode, on voit pas trop Killmonger, et à la fin, il apparaît, il fait ah, c'est le méchant en fait.
Oui, il y avait vraiment ça.
Ouais. Et bah là, j'ai eu le même sentiment quoi. Ça m'a fait exactement le même sentiment.
Moi, en fait, je l'ai tellement ressenti dès les premières minutes du film, comme on te le présente, comme un personnage qui trouve ça beau, mais qui est complètement détaché de l'humanité très vite parce que en fait, il a vu ce que c'était, et bah, au final, il a rien à y faire, il se sent pas intégré, il a pas envie d'y vivre plus que ça. Il est juste attaché à sa mission et en ce qu'il croit parce qu'il a été conçu pour ça, et c'est en ça que justement son côté robotique représente un peu aussi sa façon de penser et d'être par rapport à comment il a été conçu à la base. Et c'est peut-être le personnage qui est le plus monolithique, mais c'est pas pour rien aussi, c'est parce que justement il a ce côté très très détaché de ce dont il est censé s'attacher.
Je crois qu'ils sont complètement gourés au casting.
Non, je suis pas forcément d'accord parce que justement son côté monolithique va avec le personnage. Mais après, je suis pas.
Ouais, mais là il
y a
pas de sentiment. Tu peux être monolithique et quand même.
Bah, il a quand même la seule scène de sexe nue dans le MCU. Hein. Donc en termes de sentiments et d'émotions, il est là quoi.
Ouais, mais même ça c'est plat quoi.
C'est plat, mais c'est là quand même. Genre ouais. C'est du Marvel, faut pas l'oublier.
Ouais, mais bon.
On avance petit à petit hein, avec les rames, mais.
C'est même pas des humains qui baisent en plus.
T'as même pas des humains qui baissent. Mais ils ont une forme humaine.
Donc lui, il veut aider le gros neuneuf à éclore. C'est ça son truc. Et c'est lui qui a tué Salma Hayek.
Ouais. Il a tué Ajak. Il y a la bagarre finale, ouais, qui est moi que j'ai bien aimé, j'avoue. Pour une fois, c'est un des actes de fin du MCU qui m'a le plus. Qui m'a le plus parlé, ouais. Genre. Avec cet énorme volcan qui est en éruption sur un espèce de terrain hyper désertique, très froid et tout, et ils doivent s'en sortir là-dessus, genre alors qu'ils ont entre guillemets pas les capacités de le faire, genre même pour des êtres éternels, genre ils arrivent à, ah, je sais pas, moi ça m'a embarqué. Et puis ce côté les célestials, ces entités, tu sais, qui sont vraiment dans une taille démesurée, quoi, genre ça rappelle Galactus et tous les trucs qu'on aime aussi dans les comics, ce côté démesuré, ouais, enfin c'est vraiment genre la démesure dans toute sa splendeur.
Je m'endors.
Je trouvais ça beau. Genre là, il y a des plans qui sont super beaux, quoi, avec le célestial à la fin qui est figé dans l'océan comme ça. Enfin, genre, c'est un peu comme. Ouais,
je sais pas,
stylé.
Ça m'a rien fait. Moi.
T'as perdu ton âme d'enfant, peut-être.
Ouais, ou alors, je sais pas, je me suis pas fait avoir par Marvel pour une fois. Ça arrive.
C'est possible aussi.
Pour une fois, c'est pas ça.
Après,
pas
moi, quand je vais voir
un
Marvel, j'ai aussi envie de voir des trucs un peu grandioses, un peu grandiloquents et. Bah, je demande pas plus qu'un célestial en pleine tronche, comme il y a à la fin du film, quand il vient les récupérer. Genre, ouais, ça a de la gueule, quoi.
Je sais pas, j'ai l'impression que ça s'est pas assez lâché.
Non, ça se lâche pas assez, hein, ça c'est sûr et certain. Mais en même temps, ça c'est Marvel depuis 12 ans, 13 ans.
C'est pas Marvel, je veux dire, c'est pas un Marvel classique, mais ça reste un film classique.
Oui, mais parce qu'il y a toujours ce cahier des charges qui reste mélangé au travail de Chloé Zhao, et ça fait un espèce de truc un peu hybride où.
Tu vois, on aurait pu faire une vraie étude de personnage vraiment, vraiment, vraiment.
Mais allié, pour moi, allié. Hein.
Ouais, mais on te fout quand même, il y a un œuf qui va éclore dans la planète et il faut sauver le monde.
Oui, mais là, tu le schématises. Enfin, c'est quand même un petit peu plus subtil que ça dans le film. Quand tu sais. Les enjeux qu'on te présente dans le film, tu sais qu'il y a quand même un côté un peu.
C'est un film pro-avortement, en fait.
Tu cherches la merde.
Non, mais c'est vrai, réfléchis.
Oui, oui, c'est vrai.
C'est Cersei qui transforme l'œuf en marbre. Je l'appelle l'œuf. Hein. Je sais plus s'il a un nom, mais je sais plus ce que c'est.
Je peux te le ressortir. Tiamut.
Tiamut.
Tiamut. Tiamut.
Et c'est Icaris va se suicider dans le soleil, hein, c'est ça?
Non, il se barre juste. Hein. Enfin, pour moi,
il
se barre.
Il n'y a
pas
un moment où il va dans le soleil?
Oui, mais ça, c'est parce que c'est Icaris, Icar. Il a volé un peu trop près du
soleil.
Ah, ouais,
je croyais qu'il se suicidait dans le soleil, moi.
Ah, t'as. Enfin, je sais pas, je.
Si, il fonce dans le soleil.
Oui,
genre,
il fonce vers le soleil, mais je sais pas s'il meurt en fait.
Bah, je pensais que c'était ça l'arc.
Tant qu'on voit pas un personnage mourir.
Ah, je pensais que c'était ça son arc, moi. Voilà, okay. Il retourne au soleil. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec lui de toute façon? Il va pas être chef des Avengers avec le charisme qu'il a. Putain. Je préférerais encore Howard le Canard en chef des Avengers.
Moi aussi, je sais bien pourquoi.
Donc Sprite est transformé en humaine et ils partent tous dans l'espace pour trouver d'autres comme eux. Et il y en a une partie qui reste sur Terre.
Alors il y a une partie qui reste sur Terre qui se fait du coup enlever par Arishem.
Ouais.
Et l'autre partie qui part dans...
Et il dit quoi Arishem déjà ?
Arishem il dit je vais, vu ce qui s'est passé, je vais étudier du coup l'être humain. Et enfin, à travers votre expérience que vous avez vécu, ce que vous avez vécu vous les Eternals, et en fonction, je viendrai faire le jugement, donc soit raser la planète, soit la laisser tranquille, quoi.
Et donc tous les humains de la Terre, ils ont dû voir.
Ouais, mais c'est ça que je trouve stylé, c'est que là, oui, il y a de l'ampleur, tu vois. Là, on peut pas dire, oui, c'est un petit film, même si c'est un film Marvel qui est quand même assez détaché de la continuité classique, enfin de la continuité.
Donc c'est possible que par exemple dans Hawkeye il fasse une référence au fait qu'il y avait un truc géant dans le ciel.
Bah ce serait pas impossible, ouais. Après le problème c'est qu'on sait pas exactement quand ça se passe. Parce qu'en soi pendant WandaVision dans Lex ils auraient pu aussi avoir un Celestial qui se pointe, quoi. Tu vois, genre on est tellement non, un peu flou pas... en ce moment dans la phase 4 que...
On sait même pas si... On sait que c'est post-Thanos.
Ça c'est sûr.
Mais c'est à peu près tout ce qu'on sait, quoi.
Voilà. Bah on est dans l'année qu'a suivi... Enfin dans l'année qu'a suivi les 5 ans de Blip, quoi.
Et le blip.
L'éclipse en français.
Ah ouais ?
Ouais.
Bon, ça se tient.
Oui, ça se tient, mais...
Parce que le blip, ça aurait été bizarre.
Oui, en français, le blip, ça passe pas.
Ouais. Et on a des scènes post-credits. On a Pip le troll, qui a des effets spéciaux.
Le plus vilain du MCU, ouais.
Que j'ai vu, quoi. J'ai l'impression de regarder Harry Potter, alors que Harry Potter, ça date quand même.
Ouais, et puis c'est pas si horrible que ça, Harry Potter.
Non, et ça date, je veux dire, tu vois. Là, c'est le même. On dirait qu'il n'y a pas eu Thanos entre les deux, quoi.
Bah,
tu vois,
sens que c'est une scène post-gène, quoi.
Ah putain, c'est vraiment moche, quoi.
Ouais, ouais.
J'avais l'impression de regarder un autre film en plus, que c'était plus une scène post-credits d'un Guardians.
Ouais. Il y a un peu ce côté-là.
Basé sur l'humour.
Ah, et puis là, c'est un truc qui me fait chier, là, tu vois. Je vais un peu râler contre Marvel parce que depuis la fin d'Endgame, et on est en train de nous désacraliser Thanos d'une force. Parce qu'en te ramenant Star Fox comme ça, enfin c'est...
Oui, bah c'est d'ailleurs qui est joué par Harry Styles,
ouais.
Et qui est le frère de Thanos.
C'est ça.
Qui s'appelle Eros aussi.
Mmh. Eros, c'est son nom et son surnom de super-héros, c'est Star Fox.
Star Fox, ok. Do a barrel. Donc comme Star Fox 64.
C'est ça.
C'était bien Star Fox.
C'était un super jeu.
Donc explique-moi qui est Star Fox un petit peu, tiens.
Donc Star Fox comme son
c'était
frère...
C'était un déviant, non ?
C'est un titan.
Mais et Thanos, titans, c'était un déviant, non ?
Les titans sont des déviants des Eternals. Enfin, sont des Eternals qui ont un peu évolué, en fait, qui se sont barrés de la Terre et qui sont allés s'installer sur Titan en créant leur propre civilisation.
Mais en fait, Titan a été explosé, enfin, il n'y a plus rien à Titan.
Maintenant, il n'y a plus rien. Ouais. Mais du coup, sur cette planète... Thanos, lui, est un Eternals aussi, du coup, mais déviant dans le sens où physiquement, il est différent. Du coup, il a été rejeté pendant toute sa vie de sa famille, qui était la famille qui régnait sur...
C'est comme s'il était albino. Ou un truc
ouais, voilà, exactement. C'est vraiment un handicap physique,
parce que
visuel.
Son frère, c'est un beau gosse, quoi.
Donc... Oui, bah, c'est tout le truc. C'est qu'il y en a un qui est hyper blagueur, hyper presque pathétique par moment, tellement il est là juste pour le kiff et pour le loisir, tu vois.
Il me fait penser au Grandmaster un petit peu dans le délire, tu vois, il irait bien avec
cette
équipe.
Bah il a ce côté un petit peu
sur sa car, tu vois, il pourrait
filou,
traîner sur sa car. Oui.
Oui, il est sûrement dans un bar sur sa car, ouais.
Puis on nous le présente, il a plein de surnoms, hein, si je me rappelle.
Oui, mais en fait, c'est ça, c'est qu'il est vraiment dans la surenchère constante, c'est un personnage qui est...
Oui, il est fidèle
en fait...
aux comics, alors.
Oui, oui, là, clairement, il est peut-être même un peu trop, en fait, parce que le truc, c'est que quand tu vois ce qu'on a fait de Thanos dans le film, enfin, dans les films du MCU, je trouve que ça le désacralise totalement de se dire que ce mec-là, il a un frère comme ça, quoi, genre...
Ouais.
Moi, j'avoue, ça m'a un peu déçu, et enfin... Là, c'est vraiment faire de la nerderie parce que comment ils vont nous l'utiliser, le Star Fox dans le MCU ? Enfin, à part peut-être dans les Gardiens, et en fait, pourquoi tu l'introduis dans les Eternals du coup ? Qu'est-ce qu'il va faire avec les Eternals ? Oui, oui, j'imagine, mais.
Pour le 2, parce qu'en fait, le délire, c'est qu'eux, ils vont chercher des nouveaux Eternals, donc c'est logique qu'ils tombent sur ce titan.
Oui, oui.
On sait ça. Bon, je m'en fous complètement.
Bah c'est moi j'avoue j'ai trouvé cette scène post-générique nul à chier entre Pip the Troll qui est super moche qui d'ailleurs par contre maintenant on a Pip the Troll et Adam Warlock dans le MCU donc je sais pas ce qu'ils vont pouvoir nous goupiller par rapport à l'Infinity Saga parce que
pourquoi Pip le Troll je m'en rappelle plus
Bah Pip the Troll c'est une espèce d'extraterrestre un peu taré qui est souvent avec Adam Warlock et qui est... je sais plus exactement quel rôle il a mais dans le dans l'Infinity Saga avec le gant de l'infini, il a un rôle dedans avec Adam Warlock. Faudrait que je le relise, ça fait un moment, mais
okay.
C'est un personnage un peu loufoque, un peu taré.
Et la deuxième scène, c'est Jon Snow qui touche son épée.
C'est ça.
Et là, on entend une voix. Je sais plus ce qu'il lui dit.
Il lui dit, est-ce que tu es vraiment prêt pour ça ?
Voilà. Et c'est la voix de Blade.
Exactement, Marshall Ali.
Est-ce qu'ils sont connectés dans les comics, les deux ?
De souvenirs, je sais pas trop. En fait, c'est surtout que je pense que c'est un peu le même lore en termes d'univers dans Marvel. Donc, t'as un côté vampire un petit peu. Pas
médiéval.
Quoi. Ouais, pas médiéval, mais disons un peu fantastique dans le côté les monstres, ce genre de truc. Et bah, c'est un chevalier, enfin, Black Knight, c'est un chevalier avec une épée, une armure, avec un casque de chevalier. Donc, tu peux voir un petit peu, ils se battent tous les deux avec des épées. Donc, je pense que tu peux faire un team-up dans Blade avec lui, quoi.
Blade qui doit sortir 2023.
Je pense que c'est un des derniers films prévus de la phase 4 pour le moment, 2024 ou un truc comme ça, 2023.
On a fait des épisodes sur Blade, si vous ne les avez pas écoutés, d'ailleurs avec Demoiselle d'Horreur.
Oui.
C'est plutôt sympa. Et je n'ai aucune idée de quoi attendre pour le Blade du MCU, parce que ça va dépendre vraiment d'une chose, c'est si c'est rated R ou pas.
Ouais.
C'est comme Deadpool, quoi.
Bah Deadpool, ouais. Il y a aussi la question.
C'est si c'est rated R, ok. Il y aura du sang, il y aura du gore.
Puis il y a vraiment des trucs cool à faire avec Blade, hein, franchement. Surtout si tu le mets en team-up avec Black Knight, hein, parce que franchement, tu peux avoir
ou Daredevil. Ou c'est
et bon. Tu peux avoir un truc, là, pour le coup, qui te un peu comme Moon Knight, tu vois.
Oui, il est à New York, Blade.
Blade, il est à New York, oui, il me semble, ouais. Parce que Black Knight, lui, c'est Londres. Mm-hmm. Et après, t'as aussi qui va arriver, qui est un petit peu dans le même lore, t'as Moon Knight.
Il fait quoi de tous les jours, Blade, dans sa vie de tous les jours? C'est quoi son boulot? Genre, tu sais, les super-héros, ils ont tous un boulot.
Bah, il vit dans son hangar.
Ouais, il y a pas.
Il sort pas trop le jour en plus.
Non, il peut sortir le jour.
Si, il peut sortir le jour, mais disons que c'est la nuit qui fait le plus de taf.
C'est vrai, tiens, je sais pas si son boulot, c'est vraiment tueur de vampires, il se fait payer pour ça. Ou
ah, bah, ils vont nous faire une couverture dans le MCU. Ouais, il aura sa couverture.
Tu vois, Matt Murdock, c'est un avocat. Enfin. Moon Knight, je sais pas ce que c'est par contre.
Moon Knight, en fait, je sais pas si c'est pas un peu comme. De souvenirs, je sais plus parce que j'ai pas lu beaucoup de Moon Knight, mais je sais pas si c'est un peu comme Black Knight, le côté un peu scientifique, chercheur, archéologue. Il me semble que c'est plus ce délire là.
Oui, c'est un ancien marine et CIA qui devient mercenaire.
Ouais, lui, il a vraiment ce côté justicier pour le coup.
C'est le fils d'un rabbin. Bah voilà pourquoi c'est Oscar Isaac, je me demandais.
Ah, bien sûr, oui.
Très bien, très bon casting. Ouais. Alors. Et. Ça me tente parce que bah, je l'ai déjà dit en plus, pour une fois qu'il y a un peu de représentation pour les gens malades mentaux, entre guillemets.
Faut que ça soit bien fait, mais ça
si
peut être
c'est
très
bien
cool.
Fait.
En plus, il y a Ethan Hawke aussi au casting, donc ça.
Ouais.
Ça peut faire un bon team-up. Apparemment, les deux sont très très chauds sur ce qu'ils sont en train de faire. Donc,
Il n'a jamais fait de super-héros, Ethan Hawke ?
Non.
Non, son premier
pas. Il me semble pas, ouais. Après, il a fait pas mal de thrillers SF, des trucs comme ça, mais pas de super-héros. Ouais.
Il a fait la trilogie Before Snyder.
Before Snyder. D'ailleurs, t'as bien aimé les petites références au Superman de Zack Snyder dans ce film ?
Il y a des références.
Bah, Superman. Le plan où il est dans l'espace, où il se retourne face à la Terre à la fin, Icaris.
Ah non, j'ai même
ça m'a quand même bien fait penser.
Bah, en même temps, c'est des trucs que j'ai vu un milliard de fois, parce qu'on le voit dans Superman Returns, on le voit dans Superman, dans tous, en fait. Il y a toujours ce plan. Et je crois que c'est un des gros problèmes que j'ai avec le film, c'est ce personnage aussi.
Icaris.
Ouais. Même d'en faire le méchant, il n'est pas vraiment méchant.
Non, c'est pas un méchant, c'est juste qu'il a une foi qui est différente des autres.
Et donc
de
c'est genre, bon, bah, ma mission est finie, je pars vers l'espace et il se barre comme ça. Enfin, tu vois, il n'y a pas une vraie.
Après, tu le sens aussi à la fin du film quand il se retrouve face à Cersei et que, bah, en fait, il décide de la laisser faire. Enfin, il n'a pas trop le choix, quoi. Il y a cette volonté, d'un côté il s'en veut, tu vois, d'être comme il est, mais il peut pas aller non plus contre sa volonté parce qu'il est pas comme les autres, enfin il est un peu différent, enfin il a pas l'attachement que les autres ont aux êtres humains et surtout à la planète Terre plus globalement, quoi.
Bon, bah, qu'est-ce que t'as pensé de The Eternals?
Moi, j'ai bien aimé, enfin franchement je suis déjà un fan de tout ce qui est mythologie et compagnie, et du coup bah forcément ça me parle. Tous les petits trucs qu'ils font pour te montrer que bah les êtres humains, genre Athéna, la créate, enfin c'est l'inspiration d'Athéna, toutes ces petites justifications en fait de toutes les croyances que peuvent avoir les êtres humains, et bah tous les messages qui sont très très kirbyesques dans l'idée, moi ça m'a bien fait kiffer.
Fastos, je crois que c'est l'inspiration pour Fast and Furious, hein, si je me trompe.
Quel enfer.
C'est Fastos Furious en fait.
Fastos Furious. Mais le film est pas exempt de défauts. Il a une super musique d'ailleurs, j'ai trouvé. Je sais pas ce que t'en as pensé. C'est encore le mec de Game of Thrones.
J'ai fait mon Zoltan là. Ah, c'est le mec de Game of Thrones.
C'est Ramin Djawadi, ouais, qui avait fait Iron Man 1 aussi.
Ah ouais?
Ouais, c'est lui qui avait fait la musique d'Iron Man 1. Enfin, en tout cas, la musique orchestrale. Ouais, pas la musique. Parce qu'après, il y avait du SDS dans tous les sens.
Ouais.
Mais le film est. Moi, je trouve que le film est bon. C'est pas un excellent film Marvel. C'est un film en plus qui est un peu à part. Donc, pour quelqu'un qui a jamais vu de film Marvel, tu peux le mater comme juste un film de super-héros. Je pense que tu peux comprendre tout de A à Z.
Ouais, regarde plutôt Thor Ragnarok.
Oui, c'est vrai. Ouais, mais Thor Ragnarok est justement vachement plus incrusté dans la chronologie, ouais, quoi. Ouais. Parce que entre Banner qui revient de.
Non, mais c'est juste. Enfin, tu vois, si je devais présenter un nouveau film de super-héros à quelqu'un, je présenterais pas ce film-là. Parce que je trouve que, par exemple, pour ce qui est d'études de personnages de super-héros, je trouve que. Les comics Watchmen sont allés vachement plus.
Ah bah évidemment. Ça...
Là, pour les avoir relus il y a pas longtemps en préparation de notre soirée au Club de l'Étoile, je me suis rendu compte que quand même, ouais, c'est difficile de faire mieux.
Il y a de l'ampleur.
Hein.
Ouais.
C'est difficile de faire mieux. Et là, c'est un petit peu. Oui, les humains, ils se battent. Oui, les humains, ils créent la destruction. Mais est-ce qu'on.
Ouais, mais je trouve que celui-là pousse le truc par le côté introspectif justement qu'il a par rapport à ses héros qui sont.
Il aurait dû durer soit 3h30, soit 2h.
Ouais. Il a le cul entre deux chaises. Il a 2h37.
Non, mais vraiment, il est pas. Il y a un truc qui.
Franchement, moi, j'ai regardé ma montre à une demi-heure de la fin. J'ai fait putain, c'est cool, il reste encore une demi-heure, tu vois. Genre, j'étais content en vrai. J'ai pas vu le film passer.
J'ai beaucoup regardé ma montre.
Et c'est vrai que le film a des défauts, c'est clair et net. Après, j'aime bien la réalisation de Clouzao, qui est pas extraordinaire, hein, c'est pas une révolution.
Bah, c'est ça, on attendait beaucoup de ça aussi.
Mais on attendait trop, en fait, parce que Clouzao, elle a une réalisation qui est très particulière, mais qui est pas transcendante ou révolutionnaire, hein. C'est juste qu'elle aime bien filmer des grands espaces vides, avec ce côté, justement, très documentaire et très, très, très proche des personnages et très empathique. Mais à part ça, enfin, c'est pas une nana qui va te faire des travelling dans tous les sens et compagnie. Enfin, elle a ce côté très académique. C'est peut-être aussi pour ça qu'elle chope des Oscars, hein. Elle a un côté très, ouais, très académique, et du coup le film a le cul entre deux chaises, entre ce que veut faire le MCU plus globalement et ce qu'elle a envie d'apporter aussi. Et je trouve qu'il y a un juste milieu qui est pas vraiment de son côté à elle, mais il y a quand même d'elle dedans, et un peu plus je trouve que dans un Ryan Coogler dans Black Panther par exemple, au niveau de la réale. Et toi?
Moi j'ai trouvé ça très décevant, j'ai trouvé ça très chiant.
Est-ce que tu n'avais pas un peu envie de le détester avant de le voir?
Bah non, au contraire, je l'ai dit pas mal de fois dans le podcast qu'on attendait Eternals, que c'était un projet qu'on était quand même plutôt chaud dessus. C'est clair que les mauvaises critiques m'ont montré certainement un peu refroidi, mais je suis toujours du genre à me faire mon propre avis, quoi. Et bah en fait, ça n'a pas pris pour moi, quoi, tout simplement. J'ai trouvé ça mou, j'ai trouvé les personnages plats, qui n'ont qu'une seule dimension... Ils représentent chacun un truc et au final tu peux pas vraiment aller au-delà de ça.
Moi c'est vraiment tout ce que j'ai aimé, c'est que chaque personnage représente quelque chose.
Ouais, mais tu vas pas vraiment au-delà de ça, c'est-à-dire qu'ils sont juste là pour te dire. Et là on va t'expliquer telle philosophie, tel truc, tu vois. Et c'est même pas de la philo humain mauvais, humain pas sympa, mais faut sauver humain quand même. Et j'ai pas eu l'impression de passer 5000 ans avec eux, de voir une énorme.
Ça, c'est vrai.
J'ai l'impression que c'est tous un petit peu. Que quand tu les mets de nos jours, on dirait qu'ils viennent d'arriver, quoi. T'as pas l'impression qu'ils ont vécu là depuis 5000 ans, qu'ils ont observé la Terre, qu'ils ont vraiment.
Moi, je trouve que si, mais je trouve, comme tu dis, qu'on ressent pas avec eux, enfin, on vit pas avec eux les 5000 ans. Mmh. C'est ça qui est un petit peu regrettable. Mais par contre, oui, c'est clair que, enfin, j'aurais aimé vivre plus longtemps avec eux ce qu'ils ont vécu au fil des ans. Mais par contre, moi, j'avoue que j'étais avec eux, quoi, genre.
Et puis, je trouve que beaucoup trop de personnages qui n'ont pas assez d'impact sur l'histoire et qui, au final, sont juste là pour cocher une case.
C'est le problème d'avoir des films avec autant de personnages.
Au final,
hein,
si tu réfléchis, il y a 4 personnages qui sont importants dans le film et tous les autres, on veut te les mettre au même niveau parce qu'ils essaient quand même de mettre un peu tous les mêmes personnages au même niveau. Il y a deux personnages que moi j'aime bien, mais qui sont mal utilisés au final, je trouve. Et c'est dommage.
Et Phaistos, t'as pas aimé par exemple?
Qui?
Phaistos. L'ingénieur qui crée les...
Ah, Phaistos.
Phaistos, pardon, pas Phaistos.
Phaistos, si, il est cool, si, ça va, c'est un bon personnage.
Je le trouve hyper touchant,
ouais, non,
moi,
ça va,
par ses questionnements et ses prises de position.
C'est un bon personnage, et là aussi, il aurait mérité de gratter un peu plus.
Ouais, je trouve aussi.
Et moi, je trouve, franchement, d'habitude, les films du MCU, il y a toujours au moins un petit truc qui fait que je pourrais le revoir ou je pourrais... Là, j'ai vraiment aucune envie de le revoir et je pense que ça va être comme ça pendant une bonne partie de ma vie, quoi.
Est-ce que t'as envie de voir Chloé Zhao sur...
J'ai pas de problème avec elle.
Non, mais continuer sur les Eternals.
Moi, j'irai pas le voir.
Je pense pas qu'elle continuera, hein, mais...
J'irai pas le voir.
J'irai pas le voir.
Non. Non, là, je tiens à le dire, je vais pas aller voir tous les films de super-héros qui vont sortir parce que j'en ai marre. Et donc, c'est possible qu'il y ait des fois où il y ait pas d'épisodes ou des épisodes sans moi ou ce genre de choses parce que, franchement... Là, l'année prochaine, moi, j'aimerais me concentrer sur la saga, que je prends beaucoup de plaisir à le faire avec des invités, avec des trucs. On change le sujet régulièrement, donc au moins, ça se répète moins. Là, on est à 96 épisodes du podcast où on a parlé que de super-héros tout le temps. Je crois que j'en suis un petit peu arrivé au
oui,
point.
Oui, pour
où...
toi, oui, c'est
et je pense que c'est aussi pour ça que ce film n'est peut-être pas arrivé au bon moment. Ça se trouve quand s'il était arrivé il y a 2-3 ans, peut-être que je l'aurais mieux accueilli. Mais là, ça arrive au moment où je me dis, si tu fais un film de super-héros de nos jours, ça a intérêt à être super bien. Parce que sinon, ça va me perdre total. Et là, pour l'instant, cette année, j'ai bien aimé Shang-Chi, mais pas non plus...
J'ai toujours pas vu. Hein.
J'ai bien aimé Shang-Chi, mais pas non plus au point de dire que c'est le film immanquable. Pour l'instant, le seul qui, depuis Endgame, j'ai envie de dire, le seul que j'ai vraiment bien aimé, c'est The Suicide Squad. Et c'est pas non plus un film...
Qui a bidé, d'ailleurs, en voilà. box-office. Quoi.
Et c'est pas non plus un film énormissime non plus. Quoi. C'est pas un film immanquable à tout prix. Et donc là, j'ai envie de dire, franchement, tout repose sur les épaules de Spidey, quoi. Ouais. Parce que
ça, c'est vrai,
Spidey, hein, mais... ça va être pour beaucoup de gens, que ce soit Zoltan ou moi, par exemple.
Oui, ça c'est. Bah, vous le ressentez vachement plus, vous, ce super-héros fatigue entre guillemets.
Bah, toi, t'es un fan de comics, t'es vraiment dedans, t'es là pour la vie, toi, maintenant.
toi, t'es merde, dedans, t'es dedans, c'est fini, quoi. Sans savoir jusqu'à quand, quoi.
Alors que ouais, moi, quand j'ai commencé le podcast avec Doug et Océane, c'était juste bon, on va faire les 20 films Marvel qu'il y a là, ouais, et bah, après on passe à autre chose, quoi, tu vois. Et donc, j'ai de plus en plus de mal de me dire que, par exemple, en janvier, on va voir Morbius, quoi, tu vois, et que je vais devoir faire un épisode sur Morbius. Là, par exemple, Eternals. Bon, si Zoltan avait été là, on aurait fait un épisode plus long, très certainement. Mais là, par exemple, un film comme Eternals, 2h50, on a fait qu'une heure dessus.
Eh oui, oui.
On l'a survolé, quoi. On a beaucoup moins de choses à dire qu'avant, c'est vrai.
Il y a plein de choses à dire sur ce film, après...
Non, mais j'ai plus de trucs à dire sur un Rocky 5 ou sur un Ghostbusters 3.
Ouais.
Que tu vois, au final, je me retrouve plus
ça reste
du plaisir.
Ça reste du Marvel, quoi.
Je fais de la promo. Hein. Allez écouter la saga.
Allez-y, ouais.
Et je commence. Et pourtant, je me moquais un peu de Zoltan quand il avait annoncé que lui-même, il en avait un peu marre. Et là, je l'ai ressenti. Et c'est marrant. Par contre, je suis beaucoup plus chaud pour suivre des séries télé.
Ouais. Bah en fait, c'est un format qui se prête vachement mieux à ce genre d'histoire. Hein.
Ça me tente beaucoup plus de me dire, je vais les suivre en série télé tranquillement toutes les semaines.
Et puis à la base, t'aimes quand même plus les séries que les films.
En plus,
enfin, c'est plus un truc,
plus mon truc, quoi.
C'est plus ton king, quoi.
En parlant de ça, dans pas très longtemps, vous allez pouvoir nous retrouver sur le Patreon. Dans quoi ? Dans une semaine ou deux ?
Ok, c'est 24 novembre. Enfin, okay. Autour de 20 novembre.
Ouais. Deux semaines. Dans deux semaines, on va parler d'Okai. Donc quoi, sur le Patreon. Et comme d'habitude, 6 mois plus tard, on le mettra en ligne pour tout le monde. T'as des attentes ?
Ça, je pense que dès le premier épisode, il y aura un gros coup de gueule à faire de toute façon, mais c'est un super comics que ça adapte. En tout cas, ce qui a l'air d'être clairement très, 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 très inspiré. Donc, forcément, il y a des attentes parce que c'est une super histoire avec des super messages et visuellement, ça claque. Donc, espérons qu'ils soient au moins à la cheville du comics, mais ou en tout cas qu'ils essayent de l'adapter correctement avec un peu de justesse. Mais sinon. Ok, c'est un peu le fond du panier de mes personnages préférés, donc j'avoue que c'est pas la folie, mais le mood de la série a l'air cool, donc
ça a l'air sympa.
Oui.
Ça a l'air sympa. Ouais. À voir. On fera donc sûrement deux épisodes ou un truc comme ça.
Ouais, mais il y en a 6, il me semble, donc voilà. ça s'y prête bien.
Parfaitement. Et avant de se quitter, est-ce que tu veux qu'on parle des leaks de Spider-Man ?
On peut, mais...
Bon, on va parler de leaks de Spider-Man qui sont sortis sur Twitter aujourd'hui. Ça se trouve, il y en aura beaucoup plus qui sont sortis d'ici là. Il y aura peut-être même un trailer qui sera sorti d'ici là. Mais donc, vous pouvez quitter le podcast tout de suite si vous voulez ne pas être possiblement spoilé, parce qu'on n'est même pas sûr que les images soient vraies ou pas, hein.
Non, il y a encore un gros.
Il y a deux images.
Pour moi, c'est du fake, mais.
Il y a deux images qui sont sorties. Donc, il y en a une où on voit Toby, Andrew et Tom ensemble, sans masque,
en costume.
En costume. Et une autre où on voit, Matt Murdock, incarné par Charlie Cox, avec Happy et Tante May
et Spidey autour,
d'une table. Et je trouve qu'il a l'air... il a une drôle de tête, non, tu trouves pas ?
Mais parce que pour moi, pour moi, c'est du fake. Hein. Enfin,
Penses que c'est du fake ?
Je pense que c'est du montage. Enfin, pour le moment, j'apporte pas trop de crédit à ça. Puis de toute façon, s'il y a ce Daredevil-là, on en parlait un petit peu avec quelques personnes. Enfin, quelques personnes en parlaient sur le Discord, mais ça va être clairement du soft reboot.
Gare, il a pas une drôle de tête, genre on dirait qu'il est en image de synthèse ou un truc comme ça.
Si, mais il fait très fake parce qu'à mon avis, c'est une image.
Il a perdu ses cheveux, Charlie Cox. Hein.
C'est une image qui est prise d'un autre visuel et qui a été incrustée et du coup ça sort faux quoi. Enfin, ça sonne un peu faux.
Je l'ai interviewé une fois, Charlie Cox.
T'avais
très
partagé la photo, ouais.
Très sympathique.
T'as l'air d'être un bon gars, ouais.
C'était pour la première saison de
Daredevil.
Puis même, comment tu expliques. Bon, après, il y a eu tout le délire du multivers qui a explosé, donc on va savoir. Mais comment t'expliques que que ce mec-là, Charlie Cox, il se retrouve dans le MCU ? Est-ce qu'il a toujours été là et donc ça veut dire que tous les trucs qui sont passés dans Netflix sont canon encore de nos jours ? Ce qui voudrait dire Defenders et les trucs dans ce genre, c'est encore canon. Ce qui limite, ça pourrait, hein, je veux dire, ce serait
Surtout qu'à l'époque...
C'était censé l'être.
Ouais. Oui, Marvel Télévision faisait des références à Marvel Studios, mais Marvel Studios s'en tapait de ce qui se passait sur le petit écran. Donc il y avait même des références, il me semble, à Thanos dans... peut-être pas à Thanos, mais à l'attaque de New York, non, à l'attaque de New York de Avengers dans la série de Daredevil. Où tu avais des plans sur des incrustations de plans sur des journaux où tu voyais Battle of New York ou je sais plus comment ils appelaient ça, mais en soi c'est pas impossible qu'ils l'incrustent, enfin qu'ils l'intègrent. Mais alors comment ils vont faire ça, je suis pas encore fixé. Je trouve que c'est en fait on a tellement parlé de ce film avant même qu'il ait été presque en conception que on en est à un point où ça peut partir tellement dans tous les sens avec en plus t'as du Tom Holland qui
peuvent que être déçus. Là,
bah en fait c'est ça, c'est que plus tu t'en tiens éloigné, plus tu pourras être agréablement surpris entre guillemets ou alors juste surpris, pas forcément agréablement hein, mais surpris. Parce que là en fait t'as 90% des gens qui rêvent de voir ce film qui auront déjà quasiment toutes les infos et tout ce qu'ils rêvaient de voir, ils le sauront déjà avant même d'être devant le film quoi. Donc c'est très particulier ce film hein. Je crois qu'on a rarement vu ça au cinéma, enfin genre un truc où on sait déjà tellement de choses sans vraiment les savoir. Oui, c'est vrai qu'il y avait Star Wars avec la prélogie où il y avait ou même la post-logie où
il
y avait
la mort de Han Solo avant quoi, c'était
où il y avait pas mal de leaks quoi, même sur les scénarios du 9
le 9 on voulait pas y croire.
Mais tu disais un truc intéressant sur le Discord tout à l'heure, c'est plutôt comment ils vont réussir à faire perdurer des personnages qui avaient leurs arcs, des rédemptions, des fins dans des films qui sont passés et qui font partie de l'imaginaire collectif maintenant, et d'en faire un truc qui soit pas juste une pure destruction de ce qui avait été fait avant, juste pour que Marvel Studios version MCU joue avec ses jouets avec Sony pour ensuite les envoyer balader et tout envoyer chez des gens qui vont faire ça n'importe comment quoi.
Moi j'ai aucune idée parce que en plus il y a Tom Hardy, il y a je sais pas combien de vilains.
Tom Hardy on sait pas mais
on sait qu'il sera dedans.
Enfin oui mais comment ? Genre est-ce que c'est juste il va le voir dans une scène et puis c'est fini ? Est-ce que ça va être pendant 4 ans ? Le film va faire 2h47 je crois, un truc comme ça, donc le deuxième film le plus long du MCU après Endgame. Donc il y a quand même, il va être chargé.
L'autre, hein. Eternals, c'était pas mal aussi. Hein.
Ah bah 2h37, il va faire 10 minutes de plus Spidey 3. Hein.
C'était long Eternals.
Non, c'était pas long. C'était bon.
C'était quand même long.
Après là, c'est la tendance des films, des films même des blockbusters, on va dire, à être de plus en plus longs. Tu regardes Dune, il faisait plus de 2h40. Le dernier James Bond, il fait aussi 2h45.
Ouais, ça.
On est sur une tendance et je pense que Matrix, je sais pas si elle
Matrix, je crois que ça dure à peu près la même durée.
Ouais, ça va être un 2h30 minimum. Hein, de toute façon, on est sur des films qui sont de plus en plus longs et de plus en plus chargés en références et en personnages, surtout dans la MCU. Enfin, là, le Spidey, ça va être
140 minutes Matrix.
140 minutes, ouais, voilà. Ouais. On est dans le même ordre d'idée. Hein. Non, bah, ça va être du porn de Spidey. Le problème, c'est que j'ai l'impression qu'il y a quand même Spider-Verse qui est passé avant et qui a un peu un peu fait le travail en avance, quoi. Donc,
bah, c'est le
je l'attends, ce film, mais c'est vraiment pas le film que j'attends le plus des films Marvel à venir, tu vois. Je suis vraiment plus curieux d'un Doctor Strange ou d'un Thor 3 que de ce Spidey là, en fait, alors que ça devrait être en haut du panier parce que c'est le meilleur des persos, quoi.
Matrix 1 a duré 136 minutes et le 4 dure 140, donc ça reste quand même.
Ouais, c'est dans les mêmes ordres d'idées.
Ouais, ça reste. Sur cette note matrixienne, vous pouvez nous rejoindre, vous pouvez nous suivre sur Twitter @MCUDCPod. On a passé les 1000 abonnés il n'y a pas très longtemps. Ouais, ouais.
Et tu disais en tout, globalement, presque le million d'écoutes sur l'entièreté de tes podcasts ?
Ouais, pas encore.
Hein. Bah, non, mais on s'en rapproche. Quoi. c'est cool.
Je ferai une annonce.
Ouais. Bah, ça va être champagne.
Et vous pouvez aussi nous rejoindre sur Patreon. Vous pouvez filer un coup de main et peut-être m'aider à me motiver un peu plus. S'il y a beaucoup de gens qui rejoignent
lâcher,
le Patreon et qui me disent « Ouais, on veut faire les super-héros et tout », là, je vais me remotiver. Et donc, n'hésitez pas. Surtout qu'une fois qu'on aura atteint les 200 patrons, on fera les Star Wars.
J'étais même pas au courant de ça.
Eh oui, on fera les Star Wars.
Motivez-vous, ouais, on va rigoler.
S'il y a 200 personnes, pour l'instant, il y en a c'est entre 130 et 140, ça change tous les mois à peu près. Mais ouais, si on passe à 200, eh ben on fera les Star Wars et ce serait sympa, je pense, de nous entendre.
Et encore un grand merci à tous ceux qui nous suivent depuis parce que depuis qu'on a installé le Patreon, il y a quand même des sacrés fidèles,
monde,
ça fait plaisir.
On a le Discord aussi, où il y a une bonne équipe qui s'est faite et ouais, donc
il y a même des podcasts qui sont nés
sur le Discord, donc rejoignez-nous, tous les liens sont dans la description. Et la prochaine fois qu'on se parlera, ce sera pour Spider-Man 3, ouais, No Way Home, Tobey Maguire,
Andrew Garfield.
Allez, à la prochaine tout le monde,
salut.